الحمد لله رب العالمين، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Savez-vous qui sont les gens de l'Ohdoud? Al-Ohdoud sont des gens qui ont brûlé des croyants qui avaient une foi ferme en Allah, et la seule raison pour laquelle ils ont été tués, c'était uniquement d'avoir cru en lui, le seul, le digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Buruj les constellations dans le sens du verset 4, 5, 6 et 7. Périssent les gens de l'Ohdoud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Voici leur histoire. L'apprenti sorcier, rapporté par Suhaib dans Sahih Muslim. Il y a bien longtemps, vivait un roi qui régnait en tyran sur son peuple. Il se croyait tout puissant, persuadé qu'il était une divinité. Il avait recours à des pratiques étranges pour soumettre les gens de sa contrée. Il avait pris à son service un magicien très puissant qui régalait la cour de ses tours et surtout effrayait les pauvres gens du royaume avec sa magie. Le magicien était connu et craint de tous, mais, comme tout mortel, sa fin approchait et il sentait ses forces le quitter un peu plus chaque jour. Il voulait que son savoir et sa postérité perdurent après lui, alors il se décida à aller voir le roi pour lui faire une requête particulière. Il lui dit « Je suis devenu vieux et je sens la mort approcher. Il me faut transmettre mon savoir afin que tu puisses encore l'utiliser même après ma mort. Mets donc à mon service un jeune homme afin que je lui enseigne la magie. » Le roi, n'y voyant là que son intérêt, y consentit volontiers et il parvint à trouver le jeune homme le plus intelligent et le plus malin du royaume, sûr que ce garçon serait un bon serviteur et qu'il prendrait la relève du magicien. Les parents du jeune homme virent cela comme une grande faveur et acceptèrent volontiers la demande du roi contre quelques deniers et l'assurance que leur fils soit entretenu. Ainsi, le jeune homme prit l'habitude d'aller au palais du roi où il passait la plus grande partie de son temps auprès du magicien qui prenait grand soin de sa formation. Chaque matin, sur sa route qui le menait au royaume, il passait par une maison que tout le monde savait habiter par un homme très pieux qui adorait Allah constamment. De nature curieuse, le jeune garçon se dit qu'il ferait bien de s'arrêter auprès de l'homme pieux pour lui poser des questions et écouter ce qu'il avait à dire. Le jeune homme avait un cœur pur et il aimait Allah de tout son cœur. Il savait que la magie qu'il apprenait avait des sources malsaines. Il devait donc prendre le temps d'écouter un peu des paroles qui le rapprocheraient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un jour, il prit son courage à deux mains et osa frapper à la porte de l'homme pieux. Ce dernier était heureux de recevoir de la visite. Il le fut davantage quand il sut que le jeune homme voulait apprendre quelque sagesse de sa part. Alors, il commença à lui parler d'Allah et de tout l'amour qu'il avait pour lui. Il lui disait que l'homme n'avait été créé que pour adorer son Seigneur et que malheureusement, ils se montraient bien souvent ingrats. Le jeune homme fut conquis par de telles paroles. Enfin, il trouvait quelqu'un qui sache parler à son cœur. Ces paroles venaient abreuver son âme et étancher sa soif de savoir, bien grande, il faut dire. Ainsi, le jeune homme demanda à l'homme pieux s'il pouvait revenir lui rendre visite. L'homme accepta volontiers, heureux de transmettre un peu de ce qu'Allah lui avait donné. Et c'est ainsi que chaque matin, très tôt, en allant au palais, le jeune garçon prenait le temps de s'arrêter quelques heures chez l'homme pieux pour apprendre et adorer Allah. Il aimait tant ces moments privilégiés qu'il ne se rendait pas compte du temps qui passait, si bien qu'il arrivait souvent bien après l'heure du rendez-vous avec le magicien. À force, les retards à répétition eurent raison de la patience du magicien, ce qui valait au jeune homme d'être régulièrement battu. Un matin, le garçon arriva chez le moine, encore tout endolori des coups de la veille, et il ne put s'empêcher de se plaindre auprès de l'homme pieux qui lui donna ce conseil. Si tu ressens quelque peur du magicien, dis-lui que c'est ta famille qui t'a retenu, et si tu crains ta famille, dis-lui que c'est le magicien qui t'a retenu. Ce que fit le jeune homme, il connut ainsi un répit et ne fut plus battu. Il put ainsi faire grandir sa foi auprès de l'homme pieux. Il apprenait ce qu'Allah avait bien voulu transmettre aux hommes de cette époque à travers ses prophètes et il priait beaucoup. Il faut dire que notre héros aimait beaucoup la prière. Il ressentait une quiétude et un souffle qui venait chaque jour polir son cœur, si bien que l'amour qu'il avait pour Allah grandissait et que sa foi devenait ferme et solide. Le quotidien était installé. Le jeune garçon passait tous les jours un moment avec l'homme pieux, puis un autre avec le magicien, et tous deux lui dispensaient leurs enseignements. Or, un jour, alors qu'il était sur la route, de bon matin, il trouva une énorme bête installée sur la route. Les gens étaient là et ne savaient que faire, car elle barrait la route et personne n'osait s'approcher de crainte qu'elle leur fasse du mal. Mais quand le jeune garçon vit la bête, il se dit « Aujourd'hui, je vais enfin savoir qui du magicien ou de l'homme pieux est le meilleur. » Le jeune garçon prit une pierre et dit « Seigneur, si l'œuvre de l'homme pieux t'est préférable à celle du sorcier, fais périr cette bête afin de permettre aux gens de poursuivre leur chemin. » D'un seul jet de pierre, il terrassa l'énorme bête qui mourut sur le champ et les gens purent ainsi poursuivre leur chemin. Le jeune homme, quant à lui, était stupéfait de ce qu'il venait de faire. Il courut chez l'homme pieux et lui raconta toute l'histoire. L'homme pieux s'assit, garda le silence un instant, puis dit « Petit, aujourd'hui, tu es devenu meilleur que moi. Je connais à présent le degré que tu as atteint, mais cela n'est pas sans conséquence. Sache que tu vas bientôt être éprouvé, alors je te le demande. Ne parle de moi à personne et ne dis jamais où je me trouve. » Les paroles de l'homme pieux sonnèrent comme une prophétie, car très vite, le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle-né, le lépreux, ainsi que toutes sortes de maladies. Il avait un rapport à Allah tel que rien ne lui était refusé. Très rapidement, les gens accoururent de toutes les contrées pour venir voir ce jeune homme qui disposait de tant de pouvoir. Or, il y avait dans la cour du roi un courtisan qui était aveugle. Dès qu'il entendit parler des pouvoirs du garçon, il emporta des dizaines de cadeaux et se rendit chez lui. Dès que le jeune homme le fit entrer, il le salua et lui dit « Tout ce que tu vois là est à toi si tu parviens à me guérir. » Mais le pouvoir du jeune homme n'était pas dans les miracles qu'il réalisait, il le savait bien. Lui n'était qu'un simple intermédiaire et, toujours, il demeura conscient du fait que c'était Allah qui faisait des miracles, pas lui. Alors, il répondit avec toute la candeur et la sincérité qui le caractérisait. « Je ne guéris personne de moi-même, mais c'est uniquement Allah le Très-Haut qui guérit. Si tu crois en lui, je l'invoquerai en ta faveur et il te guérira. » Ces paroles eurent un effet immédiat sur le courtisan et la foi s'empara de son cœur, comme le feu enflamme une étoffe de tissu. Dès qu'il accepta, le garçon invoqua Allah en sa faveur et aussitôt, il recouvra la vue. Quelque temps plus tard, le courtisan retourna à la cour du roi pour lui tenir compagnie, ainsi qu'il avait l'habitude de faire. Le roi n'en croyait pas ses yeux. Son ami avait recouvré la vue. Cela lui procura beaucoup de joie et lui dit « Comme je suis heureux pour toi, mon ami. Mais comment donc as-tu recouvré la vue ?» Le courtisan n'avait pas oublié à qui il devait ce miracle. Alors, tout naturellement, et sachant que cela provoquerait la colère du roi, il dit « C'est mon seigneur qui m'a rendu la vue. » Choqué de ce qu'il venait d'entendre, le roi demanda « Aurais-tu un autre seigneur que moi ?» Toute la cour retint son souffle, appréhendant la réponse du courtisan, mais ce dernier ne se démonta pas et répondit « Oui, j'ai un autre seigneur que toi, c'est Allah qui est mon seigneur et le tien. » Fou de colère, le roi oublia instantanément sa longue amitié et ordonna à ses gardes « Arrêtez-le et torturez-le, jusqu'à ce qu'il dise comment il a véritablement recouvré la vue. » Immédiatement, les soldats s'emparèrent du pauvre homme et l'emmenèrent dans les geôles du palais. Il fut torturé des jours et des jours, et tant qu'il le put, le courtisan garda le silence. Mais, un jour, il ne supporta plus la douleur, et, dans un accès de faiblesse, il finit par dire que c'était l'apprenti magicien qui l'avait guéri et lui indiqua où on pouvait le trouver. Immédiatement, les soldats se ruèrent chez lui et l'amenèrent chez le roi. En les voyant, le jeune garçon comprit que la prédiction de l'homme pieux était sur le point de se réaliser et que le temps de l'épreuve était arrivé. Mais il avait foi en Allah et son cœur était ferme. Alors, il les suivit sans dire un mot. Quand il fut devant le roi, ce dernier lui dit « Mon petit, Il est parvenu à mes oreilles que tu guérissais par ta magie l'aveugle-né, le lépreux, et que tu pouvais faire telle et telle chose. Mais le garçon eut la même réponse que pour le courtisan. Il dit, la magie n'est pour rien dans tout cela, et moi-même, je ne suis pas en mesure de guérir qui que ce soit. Je n'étais que l'instrument d'Allah, le seul, capable de guérir ses créatures. Ivre de colère, le roi se jeta sur lui pour le frapper. Puis, il ordonna aux soldats de l'emmener dans les geôles du palais pour lui faire subir le même sort que le courtisan. Le roi savait bien que le magicien ne pouvait pas lui avoir enseigné tout cela. Cela devait forcément être une autre personne. Coûte que coûte, il devait savoir qui cela pouvait bien être. Alors, il ordonna qu'on le torture jusqu'à ce qu'il donne le nom de celui qui lui avait enseigné ce savoir. Mais notre héros n'était encore qu'un enfant. Il résista autant qu'il le put, puis finit par parler et donner le nom de l'homme pieux. Le roi envoya alors ses soldats pour s'emparer de l'homme et l'emmener jusqu'à lui. Plein de dédain pour cet homme sage, le roi lui ordonna alors « Rejette la foi que tu as en ton Seigneur, car il n'y a nul autre Seigneur que moi. » Mais l'homme pieux refusa fermement. Il savait que sa fin était proche et il attendait sa rencontre avec Allah. Il était hors de question qu'il le renie donc maintenant. Devant une telle fermeté, le roi fut pris d'une rage terrible. Il ordonna qu'on apporte une scie que les soldats placèrent sur le sommet de son crâne. Et c'est alors que, dans une sauvagerie sans nom, on lui coupa la tête en deux. Même les partisans du roi étaient choqués devant cette scène d'horreur. Seuls quelques hommes fous et ivres de pouvoir se réjouirent de la scène. Ils applaudirent le roi et l'encouragèrent à continuer et à imposer son pouvoir dans tout le royaume. Et, effectivement, le roi n'en avait pas fini. Il devait éliminer tous les coupables. Il fit alors venir le courtisan et menaça celui qui avait été un si proche ami de lui faire subir une mort terrible s'il ne renonçait pas à sa foi. Le pauvre courtisan n'était plus que l'ombre de lui-même. Les longues journées de torture avaient eu raison de sa prestance. Pourtant, devant une telle requête, il reprit un peu de la majesté qui l'avait toujours animé jusqu'alors. Et, avec la même fermeté que l'homme pieux, il refusa d'abjurer sa foi. Comment pouvait-il renoncer à celui qui lui avait rendu la vue et éclairé son cœur? Alors, oubliant toute mesure, le roi le fit exécuter de la même manière et le crâne du pauvre courtisan se retrouva scindé en deux au milieu de la cour du palais. Le roi décide enfin de s'attaquer au jeune garçon. Les gardes l'amenèrent au milieu de la cour immense et il arriva, tout frêle et encore si jeune, entouré de ses geôliers. Le roi lui ordonna de renoncer à sa foi, mais cela était une chose que le garçon ne pouvait faire. Il refusa donc. Le roi était excédé. Il voulait sa mort, mais il savait qu'il ne pouvait tuer un petit garçon aussi cruellement qu'il l'avait fait pour l'homme pieux et le courtisan. Sinon, cela susciterait l'indignation des gens. Alors, il le livra à ses hommes et leur dit « Emmenez-le sur la montagne. Parvenu au sommet, demandez-lui de renoncer à sa foi. S'il refuse, précipitez-le dans le vide. » Les soldats du roi s'exécutèrent et lorsqu'ils eurent atteint le sommet de la montagne, le jeune homme fit une prière à Allah en disant « Seigneur, délivre-moi d'eux comme bon te semblera. » Soudain, la montagne se mit à trembler si fort que les soldats furent précipités dans le vide. Le jeune garçon était sain et sauf, mais il savait qu'il avait une mission à remplir. Alors, au lieu de prendre la fuite pour sauver sa vie, il retourna au palais et se présenta devant le roi. Quand il le vit, ce dernier n'en crut pas ses yeux. C'était impossible. Le roi demanda « Comment as-tu pu leur échapper ? Et qu'est-il advenu des hommes qui t'accompagnaient ?» Et le garçon lui répondit « Allah m'a délivré d'eux. Il est mon seigneur, celui de tes soldats et le tien. » Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Bismillah wa salat wa salam ala Rasulillah. Le repentir de Malik ibn Dinar, rapporté par Ibn Qudama rahimahullah dans Rawda al-Nazir wa Jannat al-Manazir fi Usul al-Fiqh. Quelques dizaines d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la troisième génération de l'islam, vivait parmi les musulmans un homme nommé Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar était un jeune soldat qui aimait les plaisirs, négligeant ainsi de nourrir son cœur, malgré le fait qu'il était musulman. Erreur de jeunesse ou péché assumé, il n'empêche que notre homme buvait de l'alcool, comme d'autres boivent de l'eau. Il aimait tant cela qu'il finissait souvent ivre à cuver son vin dans les ruelles de la cité. Outre ce penchant pour l'alcool, c'était un homme peu sérieux. Les gens ne l'appréciaient pas vraiment et rares étaient ses amis. Pourtant, de temps à autre, il lui arrivait d'avoir des moments de lucidité qui rendaient notre homme presque sympathique. Un jour, au marché, alors qu'il déambulait parmi les étals, il aperçut un homme de très grande taille et larges épaules. Il avait l'air d'être puissant et riche. Il portait au doigt une bague imposante et sur la tête, un long turban. Il émanait de sa personne un parfum très raffiné. Tout chez lui montrait l'opulence et la distinction, tout sauf son attitude, car l'homme était hors de lui. Il criait et proférait injures et insultes, alors que son visage semblait prêt à exploser tant il était rouge jusqu'aux oreilles. Voyant cette scène intrigante, Malik s'approcha et vit que cet homme s'acharnait sur un pauvre vieillard vêtu de haillons. Ce dernier avait les mains fissurées par le labeur, son visage était fatigué et des larmes coulaient de ses yeux. Il était là, à genoux, en train de supplier le riche de lui rendre ses 7 dinars en disant « Je te supplie de me les rendre, je n'ai rien d'autre que ces quelques pièces. Si tu me les prends, je ne pourrai pas nourrir mes fils aujourd'hui. Ne sois pas injuste, je t'en supplie. » Mais le riche n'avait que faire de ses supplications. Il le repoussa avec dédain, fermement décidé à garder cet argent. Même s'il n'était pas un modèle de vertu, Malik ibn Dinar n'aimait pas l'injustice. Cette situation le choqua, si bien qu'il osa s'interposer, il demanda au riche. « Qu'as-tu donc avec cet homme ? Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. » répondit sèchement l'orgueilleux. « C'est une affaire entre lui et moi. Cet homme me doit 7 dinars depuis des années, et à chaque fois que je les lui demande, il les reporte à plus tard. Mais maintenant que je l'ai attrapé et que j'ai pu lui arracher cette dette, il est hors de question que je le laisse en tirer. » Malik ibn Dinar ne comprit pas sa réaction, il osa dire « Mais toi tu es riche, Allah t'a comblé de ses bienfaits. Tu pourrais faire faveur de cette somme à ce pauvre homme qui semble en avoir plus besoin que toi. » Mais le riche, plein d'ostentation, refusa, méprisant le pauvre homme ainsi que les conseils de Malik ibn Dinar. Ce dernier ne le supporta pas. Alors, totalement indigné par son manque de savoir-vivre, il mit une gifle si forte au riche que ce dernier vacilla. Malik en profita pour dérober les 7 dinars de sa main et les donna au pauvre homme qui partit en courant. Avant qu'il ne soit trop loin, Malik ibn Dinar lui dit « Ce soir, quand tes fils se mettront à table pour manger le repas que tu auras pu leur offrir grâce à cet argent, demande-leur d'invoquer Allah en faveur de Malik ibn Dinar. » L'homme le promit de loin et détala à toute vitesse. Après quelques temps, Allah mit dans le cœur de Malik l'envie du mariage. Il sentit qu'il avait besoin de se stabiliser et de se construire un foyer. Alors, il commença à aller voir les hommes de la cité pour tenter de demander la main de leur fille, mais personne ne voulait donner sa fille en mariage à un homme tel que lui, alcoolique et si peu sérieux. Malik ibn Dinar s'en attrista beaucoup, jusqu'au jour où il pensa à une esclave qu'il avait achetée il y a peu. Il se l'avouait, il la trouvait très belle. Elle était aussi pieuse et éduquée. Elle ferait une bonne épouse. Il alla donc la demander en mariage et celle-ci accepta. Tous deux se marièrent et quelques temps après, ils eurent une fille, Fatima. Dès qu'elle vint au monde, Malik ibn Dinar éprouva pour cette petite créature un amour profond. Il la chérissait et il fut pour elle un père aimant et attentionné. Et elle le lui rendait bien, à travers des sourires, son regard qui semblait sonder son âme et ses petits rires. Plus elle grandissait, plus Malik la chérissait. La petite fille le suivait partout et refusait de rester un instant sans son père. Mais ce bonheur et cet équilibre enfin trouvé n'empêchaient pas notre homme de continuer à boire de temps à autre, malgré le fait qu'il s'était amendé et qu'il priait de façon régulière, tentant de faire le bien autant qu'il pouvait. L'innocente enfant avait pour sa part une bien étrange habitude. Dès qu'elle voyait une coupe de vin dans la main de son père, elle s'en emparait et la renversait sur ses vêtements. Mais Malik l'aimait tant qu'il n'osait la réprimander pour cela. Au fil des années, il délaissa jusqu'à l'alcool et chemina véritablement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son épouse était comblée et la petite fille jouissait d'un foyer plein d'amour et d'équilibre. Un jour, alors que Malik ibn Dinar était en train de jouer avec elle à la maison, la petite Fatima tomba sans vie sur le sol. Paniqué, Malik se jeta sur elle et la prit dans ses bras. Il tenta de la ranimer en lui tapotant les joues, en criant son nom, en vain. Alerté par les cris, son épouse arriva, paniquée, voyant le corps sans vie de sa petite fille gisant dans les bras de son père. Fatima était morte. Comment la vie allait être possible désormais? L'épreuve était insupportable. Malik avait le cœur brisé et la douleur était trop vive. Il sombra dans une profonde dépression. Tout lui rappelait sa fille. Chaque endroit, chaque objet, tout le ramenait à elle. Quand il prenait le Coran pour le lire et le méditer, il se souvenait de la façon dont Fatima le prenait pour faire mine de le lire avec son petit air sérieux. Quand il posait son tapis pour prier, il se rappelait comment elle grimpait sur lui alors qu'il était en prosternation et ses petits rires pour lui faire perdre sa concentration. Comment continuer à faire toutes ces choses qui lui rappelaient tant Fatima? Alors, Malik préféra se détourner. Il délaissa la lecture du Coran et la prière dans sa demeure. Ce fut plus rare. Il finit même jusqu'à cesser de s'alimenter, obsédé par le souvenir de sa chère enfant. Mais le pire étaient les nuits qui lui semblaient interminables. Une véritable torture du temps et de la souffrance alliés l'un à l'autre contre notre âme. Un soir, peu avant le Ramadan, un soir où la tristesse était trop forte et où il sombrait dans le désespoir, il décida d'en finir. Il alla acheter des dizaines et des dizaines de bouteilles de vin, décidé à boire jusqu'à en mourir, car il en était désormais convaincu, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Alors, il ouvrit une bouteille et prit une première gorgée de ce liquide qui lui était autrefois si familier. Le goût restait le même, c'était celui de l'amertume. Puis, il prit une autre gorgée, suivie d'une autre, si bien qu'il finit rapidement la bouteille. Il but la seconde, presque d'un trait. La vieille habitude redevenait maîtresse de notre homme, qui peu à peu sombra dans l'ivresse, sans que la douleur le quitte pour autant. Alors, il continua à boire et à boire encore, jusqu'à perdre connaissance. Il finit par tomber inanimé, face contre terre, sans avoir fait ses prières du soir. C'est alors qu'il fut le plus effrayant des rêves. Mais découvrons-le tel qui nous l'a raconté. Il dit, je fis un rêve dans lequel était arrivé le jour du jugement. Je regardais tout autour de moi, ne sachant pas d'où je venais, et je vis à ma droite et à ma gauche les gens sortir de leur tombe. Saisis par la peur, hommes, femmes et enfants couraient dans tous les sens. J'étais totalement pétrifié par cette scène de terreur. Alors, saisi par la peur, je me mis à courir aussi, jusqu'au moment où je sentis un souffle chaud derrière moi, accompagné d'un bruit étrange. Je me retournai et je vis un serpent monstrueux qui se dirigeait droit sur moi. Seigneur, c'était la vision la plus effrayante qui soit. Ses yeux verts étaient ceux d'un félin. Sa gueule était grande ouverte et il se ruait vers moi avec furie. Terrifié, je me sauvai à toute allure. Alors que l'horrible serpent était à mes talons, dans ma course effrénée, je rencontrai un vieil homme. Il était tellement beau. Il portait les plus beaux habits qui soient et il était si délicatement parfumé. Je le saluai et il me rendit l'appareil. Je le suppliai alors. Vieil homme, je t'en supplie, viens-moi en aide. Je suis trop faible pour pouvoir t'aider contre un tel monstre, répondit-il. C'est bien au-delà de mes pouvoirs. Continue à fuir. Il se peut que tu trouves plus loin quelque chose qui te sauvera. Alors, je continuai à courir comme un fou, espérant échapper au serpent. C'est alors que j'arrivai au pied d'une montagne. Sans réfléchir, je me suis mis à l'escalader. Mais, arrivé au sommet, je vis, en contrebas, le feu furieux de l'enfer, avec les plus horribles scènes qui m'aient jamais été données de voir. Les gens brûlaient et criaient. C'était une vision insoutenable. Puis, le serpent revint de mon champ de vision, alors je me remis à courir à toutes jambes jusqu'à presque me jeter dans le brasier.
C'est à ce moment que j'entendis une voix me dire « Retourne d'où tu viens, car tu n'es pas de ceux qui sont destinés à l'enfer. » Alors je fis demi-tour. Le serpent, toujours à mes trousses, je revis le vieil homme aux vêtements raffinés et aux parfums délicats et le supplie encore. « Vieil homme, je t'en supplie, ne peux-tu vraiment rien faire pour moi ? Ne peux-tu pas me sauver de ce serpent ? Je te le redemande, aide-moi. » L'homme se mit à pleurer, visiblement triste de ne rien pouvoir faire pour moi, et dit « Je suis trop faible pour t'aider contre un tel serpent, mais je peux te dire que tu trouveras un peu plus loin une colline où sont gardés les dépôts sacrés des musulmans. Escalade là, peut-être y trouveras-tu un dépôt t'appartenant qui pourra te sauver de ce monstre. » Je me précipitai vers la colline parfaitement arrondie, comptant plusieurs fenêtres ornées de rideaux. Chaque fenêtre avait deux volets en or, incrustés de rubis et de pierres précieuses et drapés de soie. Au moment où je m'apprêtais à escalader cette colline, les anges annoncèrent d'une voix forte « Ouvrez les fenêtres, relevez les rideaux et sortez de vos alcôves. Il y a ici un malheureux homme en détresse. Peut-être parmi vous y a-t-il un dépôt lui appartenant qui pourrait l'aider dans son infortune. » Aussitôt, les volets s'ouvrirent. Les rideaux se soulevèrent et je vis un nombre considérable d'enfants sortir de tous les côtés. Ils étaient si beaux et si rayonnants, tels des étoiles dans le ciel. Je ne savais plus si je devais paniquer pour le serpent qui s'approchait ou rester là, saisi d'admiration face à cette foule d'enfants si purs et si beaux. Ils riaient, jouaient et parlaient dans tous les sens. C'était une vision magnifique. Puis certains d'entre eux appelèrent les derniers enfants, restez dans la maison. Dépêchez-vous, dirent-ils, car le serpent approche. Les enfants sortirent en masse, quand soudain, parmi tous ces visages radieux, j'entreaperçus celui qui m'avait tant manqué. Ma fille Fatima était là, devant moi. Elle me reconnut aussitôt et elle se mit à crier. Par Allah, c'est mon papa! C'est mon cher papa! Elle sauta sur un berceau qui semblait fait de lumière céleste et se précipita à ma rencontre. En une seconde, elle fut près de moi. Je la pris dans mes bras, fou de bonheur, en la serrant très fort. Elle me caressa le visage de sa main gauche. Puis, quand elle aperçut le serpent, elle leva sa main droite et aussitôt, celui-ci prit la fuite. Alors, elle me regarda à nouveau. Elle me fit asseoir et sauta sur mes genoux. L'instant était irréel. Elle se mit à caresser ma barbe de sa petite main, comme elle le faisait de son vivant, et me dit « Mon cher papa, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité ?» Sourate 57, verset 16. À ces mots, je me mis à pleurer. Ma fille maîtrisait le Coran et sa signification alors qu'il m'était inconnu, à moi qui étais son père. Je lui demandais « Oh ma petite fille, est-ce que vous tous comprenez le sens et la signification du Coran ? Nous le comprenons mieux que vous, répliqua-t-elle. Je compris qu'elle avait des connaissances que je n'avais pas. Alors, je lui demandai. Qui était cet énorme serpent ? C'étaient tes mauvaises actions. Elles sont si nombreuses, mon cher papa, qu'elles ont rendu le serpent puissant au point qu'il a bien failli te pousser en enfer. Et qui était le vieil homme élégant et parfumé ? C'étaient tes bonnes actions. Elles sont si faibles, cher père, qu'elles n'ont pas réussi à t'aider contre le serpent de tes mauvaises actions. C'est à peine si elles ont été capables de t'indiquer la voie de la délivrance. » Tout cela devenait tellement clair maintenant. Je lui demandais. « Dis-moi encore, ma fille chérie, que faites-vous, toi et tous ces enfants, ici, sur cette colline ? Nous sommes les enfants des musulmans morts en bas âge. Nous resterons ici jusqu'au jour de la résurrection, à attendre la venue de nos parents. Et lorsque nous serons tous réunis ici, alors, nous intercéderons auprès de notre Seigneur pour nos parents. » Puis, elle posa sur moi un regard profond, comme elle savait bien le faire, pour capter mon attention, et elle me dit « Mon cher papa, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité ?» Sourate 57, verset 16. Elle répéta ce verset encore et encore, comme si elle voulait l'imprimer au fond de mon âme. Et ces mots résonnèrent en moi le reste de la nuit. Puis, Je me réveillais soudainement, sentant encore la chaleur de ma fille sur mes genoux et encore saisi de la peur de ce grand serpent. J'entendis le muezzin appeler à la prière de Subh. Alors, je fis mes ablutions et me rendis à la mosquée. L'imam de la mosquée n'était autre que l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Je me plaçai derrière lui, le cœur encore tout tremblant de mes émotions de la nuit. J'écoutais néanmoins attentivement sa récitation. Il termina la Fatiha et nous dîmes un Amin appuyé et implorant. Puis, quelle ne fut pas ma stupeur quand j'entendis l'imam al-Shafi'i rahimahullah commencer sa récitation par le verset que ma fille m'avait répété durant la nuit. Sans pouvoir me contrôler davantage, j'éclatai en sanglots au cœur de la mosquée, tant j'étais convaincu que ce verset ne s'adressait qu'à moi. À la fin de la prière, l'imam al-Shafi'i avait pour l'habitude de toujours faire une petite exhortation. Il expliqua alors que ce verset avait été révélé 4 années après l'Hégire. Allah avait dit, à travers son messager, comment l'adorer comme il se doit. La voie était toute tracée. Après l'Hégire, les révélations et les nombreuses épreuves, ce verset sonnait donc comme un reproche. Le cœur n'est-il pas venu que vos cœurs s'humilient? Allez-vous perdurer ainsi dans vos péchés, dans votre négligence et votre insouciance? Allez-vous continuer à vivre comme si vous n'allez jamais mourir? Alors, je me mis à pleurer de plus belle, ne cessant de dire, « Je me repens toi, Seigneur, je me repens. » Tels étaient les mots de Malik ibn Dinar. C'était jusqu'alors un homme alcoolique et grossier. En une nuit, son cœur s'emplit de regrets et de repentir. Après la prière, il alla voir son épouse pour lui dire, « Allah a mis en mon cœur l'amour de la connaissance et du savoir. Laissons cette vie et partons à Médine, dans la cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Heureuse de cette décision, son épouse accepta aussitôt. Ils partirent à Médine et s'y installèrent. Malik ibn Dinar y apprit la science des années durant. Il devint un des plus grands imams de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un des plus grands savants qui ait jamais vécu. Qu'Allah le prenne dans sa miséricorde. Voici la fin de cette belle histoire, à qui j'espère nous profitera à tous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته